for sure, I think.
Un show qui va droit au but.
I don't have a time limit.
Un show qui se perd pas.
Very good. I think he brings a lot.
Marceau le midi.
À tous un excellent mardi. On est le 2 avril. C'est fini, poisson d'avril.
Fini. Ouais. Terminé.
La fameuse baleine qui devait traverser le Canada. Pascal qui nous a envoyé cet article-là. Hey, hein?
Elle l'a retiré. Bon poisson d'avril, pareil. Hein?
Elle l'a retiré très rapidement, soit dit en passant. Là. Mais elle avait vraiment cru que les services de police transportaient une baleine.
Puis en plus, ouais, c'est ça. En plus de ça, c'est que la réflexion est allée plus loin. Si c'est un camion, ça doit être une baleine naine.
Laissez-moi mes absences.
Oui, oui. Ouais.
Hein?
On t'aime de même.
Je peux en avoir.
Oui, mais c'est parce qu'elle...
Tu veux que je sois parfaite.
Exact.
C'est beaucoup.
En fait, c'est à ça que tu sers ici, c'est d'être parfaite.
C'est beaucoup demandé à une simple femme.
Moi, je suis le tout croche. Toi, t'es la parfaite. Puis lui, ben, c'est le gars qui est là.
Le gars qui est là.
C'est 3 degrés sur Québec. Ça se réchauffe. On nous annonce un genre de 6 degrés pour aujourd'hui. C'est plein soleil. On est gâtés. Demain, mercredi, alternance de soleil-nuages avec du vent. On parle de rafale à 70 km/h.
Tu pourrais perdre ton chapeau.
Maximum de plus 4 degrés. Il y a eu beaucoup de vent en fin de semaine, ouais. Le jeudi. Excuse-moi, vendredi, samedi, c'était très, très, très venteux à Québec. Donc, nuageux pour jeudi, 70 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie, maximum de plus 3. Vendredi, c'est des averses de neige ou pluie, maximum de plus 5. Donc, profitons donc du soleil qu'on a aujourd'hui et demain, parce que pour le reste de la semaine, c'est pas sûr. Canadien de Montréal qui reprend l'action ce soir. Ça n'a pas été un gros match, là, samedi, face aux Hurricanes de la Caroline. Hurricanes qui sont une super de bonne équipe.
Vraiment.
Là, ce soir, ça va être contre les Panthers. On s'attend à quel genre de match?
Les Panthers qui sont sûrs de faire les séries ou presque, là, si je ne me trompe pas, je ne crois pas qu'il y ait une confirmation encore qu'ils font les séries, mais sinon, c'est pas loin, c'est pas confirmé. Les Panthers qui étaient notamment à Toronto hier pour affronter les Maple Leafs, ça a été une défaite malheureusement, mais les Panthers qui vont affronter le Canadien, puis ça reste encore une bataille pour les Panthers en termes qu'on veut peut-être avoir en première ronde des séries. L'avantage de la glace. Donc, commencer la série à la maison, jouer les matchs importants dans notre amphithéâtre. Donc, ça va être à suivre. Puis un match important pour les Panthers, donc ce soir à 19h au Centre Bell. Puis les matchs à surveiller, notamment ce soir, Washington est à Buffalo pour affronter les Sabres. Les Islanders de Patrick Roy qui sont en pleine course des séries en ce moment. On fait face aux Blackhawks de Chicago. Nashville fait face à Boston. Et sinon, Vancouver qui est à Vegas. Il y a aussi d'autres matchs ce soir. Puis LHJMQ, les séries premier tour qui se poursuivent ce soir. Toutes les séries sont à 2-0. Il n'y a pas de série 1-1. Donc, une domination dans chaque série ou presque. Donc, ça va être à suivre aussi. Puis sinon, les Blue Jays qui sont de retour en action ce soir pour affronter les Astros de Houston à 20h10.
L'excellent Nicolas Gagnon est au bout du fil. La Fédération canadienne des contributeurs. Salut mon ami.
Bonjour tout le monde, ça va bien?
Ouais, 4 jours de congé, est-ce que c'était suffisant pour toi ou t'en avais besoin de moins?
Ben, déjà, je pense que t'abuses de penser que j'ai pris ces journées-là de congé. Non, mais c'est pas vrai. Ben, inquiète-toi pas, oui, je me suis reposé un peu, puis c'était le fun. Ça a permis de voir un peu de famille, d'aller à la cabane à sucre aussi, puis de célébrer Pâques en bonne et due forme. Mais c'était sobre puis relaxant, mais je sais pas si c'est des 4 jours de congé ou si c'est les... toutes les poissons d'avril qu'on s'est fait livrer hier de la part des différents gouvernements, mais il me semble que j'aurais pris une journée de congé de plus pour m'en remettre, là, mais on va faire avec. Là.
T'aurais pas aimé acheter l'album de François Legault et Bernard Drinville?
Ben, honnêtement, je suis surpris qu'ils ont mis autant d'efforts pour faire quand même un bon poisson d'avril, mais non, je tiens à ma santé mentale, je m'évitais de réécouter Bernard Drinville chanter. Il est fun comme animateur radio, mais bon.
Honnêtement, je dois dire que c'était bon. J'ai trouvé ça bon joueur là, avec la vidéo qui bug sur leurs réseaux sociaux avant qu'ils commencent à chanter. C'est bon joueur, c'est rire d'eux-mêmes. Ça n'a pas pris trop de temps.
Ouais.
On passe à autre chose.
Moi, je ne veux pas couper le fun, là, mais concentrez-vous sur d'autres choses, les boys. Là. Je regarde l'état du Québec actuellement.
Ça, c'est quoi, je me suis posé.
Je regarde l'état du Québec actuellement, puis tu te concentres sur le 1er avril, faire une joke, c'est non. Là.
Écoute, s'ils l'ont fait, au moins, était bon. Mais ça se peut qu'il aurait pu ne pas la faire.
Ouais. C'est ça. Puis toi, Nicolas, dans la fameuse baleine qui traversait le Canada, tu as-tu cru?
Moi, j'ai manqué la baleine qui traverse le Canada. Écoutez, je pensais pas que ça... Il y a tellement de faux poissons d'avril qui sont passés hier que je me demandais bien ce qui se passait pour vrai ou ce qui se passait pas. Là, mais
non, mais faut-tu être tard pour croire à ça?
Ouais. Puis est-ce qu'on dit... Là, toi, t'es à Montréal, hein, c'est ça?
Laval.
Ah ouais, c'est pas
Montréalais.
C'est vrai. Est-ce qu'on dit baleine ou baleine?
Baleine, selon l'Office de la langue française.
Toi, Nick?
On dit baleine.
Non.
Parce que moi, j'ai toujours dit baleine. Parce que baleine. La région de Montréal, on dit tout de la même manière, j'imagine. Là, mais ouais, baleine. Ouais.
Est-ce qu'on dit t'as mauvaise haleine ou t'as mauvaise haleine?
Une mauvaise haleine?
Vous dites des poteaux aussi.
Ben ouais, des poteaux ou des poteaux.
C'est poteaux, ouais. C'est baleine.
Est-ce que vous dites la bus ou le bus?
Non, on dit le... Attends. Ben moi, je prends une voiture, là. Je veux dire, je prends pas le bus. Mais attends, on prend un autobus.
Oui, ça, donc, c'est vous avez raison. Ouais.
Ou l'autobus.
Oui, c'est ça. Nous, au Québec, c'était la bus.
Oui, malheureusement.
Oui, ben ça, je suis au courant. Baleine, je pense que c'était pas du Saguenay ou c'est aussi de Québec que vous dites différemment?
Non, je pense que vous avez un handicap. Là. C'est pas plus grave
que ça. C'est long. C'est un autre...
Oui. Hey, hier, c'était le 1er avril. Bon, il y en a qui en ont profité pour faire des poissons d'avril, mais le gouvernement fédéral qui fait quelques changements, lui, le 1er avril.
Oui, bien, tu sais, si on avait des fausses nouvelles hier, ben, il y avait quand même des vraies nouvelles qui n'étaient pas vraiment drôles. C'était effectivement là, les augmentations de taxes qui ont lieu à Ottawa, surtout la taxe carbone fédérale qui touche plus le reste du Canada que nous, mais il en reste que tu te dis que cette même journée-là, ils n'ont pas juste augmenté la taxe carbone, ils ont aussi augmenté la taxe d'assises fédérale sur l'alcool, et ils ont en plus augmenté leur propre salaire à la Chambre des communes. Donc, c'est, comment dire, ils ont réussi à faire le tour du chapeau parfait, où est-ce qu'on augmente les taxes d'un bord, puis on augmente les salaires. C'est sûr que l'augmentation des salaires, c'est prévu à chaque année, chaque 1er avril, le salaire des députés à Ottawa augmente en fonction de ce qui est observé dans l'économie, généralement dans les entreprises privées de 500 employés et plus. Donc, ils observent l'augmentation des salaires qui a lieu dans ces différentes entreprises et ils prennent cet indice-là pour l'appliquer à leur portefeuille. Donc, magiquement, depuis le 1er avril, nos élus à Ottawa sont officiellement les deuxièmes politiciens, ou du moins les politiciens les deuxièmes mieux rémunérés au monde, ce qui est quand même pas rien, en ayant un salaire de plus de 202 000 $ en étant simplement un député d'arrière-ban. Et cette journée, et la même journée, on avait l'augmentation de la taxe carbone de 23%. Donc, dans le reste du Canada, dans 8 provinces sur 10, on paye maintenant 17 cents par litre pour faire le plein, ne serait-ce que 17 cents de taxe carbone par litre d'essence. Donc, ça a augmenté quand même de 3 cents, ne serait-ce qu'en 24 heures. Et même si nous, au Québec, on paye pas la taxe carbone fédérale, on a notre propre système de plafonnement et de bourse de carbone. Au final, c'est qui notre partenaire? Le partenaire commercial numéro un du Québec, ben c'est le reste du Canada.
C'est le reste du Canada.
Donc,
mais
si le reste du Canada augmente, ben ça va augmenter un petit peu du moins le prix que les consommateurs québécois payent.
Exact. Puis c'est de voir les défenseurs du modèle qui disent non, c'est juste au Canada. Ben les amis, commandez-vous. Si vous commandez quelque chose à la maison, puis ça touche le transport, moindrement, vous allez devoir payer. T'sais. Ce que vous achetez à l'épicerie, c'est transporté. Donc, moindrement, cette taxe-là va s'appliquer tout autant, là.
Exact. Puis c'est surtout qu'il y a le transport, mais on oublie surtout que dans l'agriculture, on en utilise encore beaucoup de gaz naturel et de propane, que ce soit pour le séchage du grain ou pour les différentes fermes et autres. Donc, ça aussi, ça joue beaucoup dans la composante. Donc, si on augmente le prix de la nourriture, ben, ne serait-ce que pour la récolter, puis ensuite pour la transporter, ben dans les épiceries, on peut s'attendre à ce que les prix augmentent. Et ça va nous affecter, nous, au Québec, et qu'on soit un pays ou pas, là, pour le rappeler à certains, surtout pour le rappeler peut-être à Yves-François Blanchette, qui joue un peu sur les mots depuis quelques temps. Mais il a quand même rappelé un point qui est assez intéressant à sa défense. C'est qu'il disait, écoutez, si on est pour accuser la taxe carbone fédérale d'avoir un impact sur les prix que nous, on paye au Québec, mais on peut aussi accuser les taxes qui sont appliquées, ne serait-ce qu'aux États-Unis ou au Mexique, de jouer ne serait-ce qu'un rôle sur le prix qu'on paye au final. Sauf que ce qu'il oublie, lui, dans son raisonnement, c'est qu'il a voté pour la taxe carbone fédérale. Si elle a lieu, si elle augmente, si elle existe encore, c'est en bonne partie parce que les politiciens comme lui la défendent bec et ongles et font tout pour s'assurer que le gouvernement Trudeau reste au pouvoir et puisse continuer à l'augmenter.
Exact. Ah non, mais je veux dire, Yves-François Blanchette, c'est pour les gens qui suivent un peu la politique fédérale, c'est pas quelqu'un qui semble être en accord constamment avec ses propres valeurs fondamentales. Il peut laisser quelqu'un au pouvoir, même s'il n'est pas du tout d'accord avec l'individu. Je trouve ça très particulier. Il y a d'autres choses aussi. Le salaire des employés fédéraux, le salaire minimum des employés fédéraux, ça change aussi, ça?
Le salaire minimum des employés fédéraux, j'ai pas observé un changement à ce niveau-là le 1er avril, peut-être plus au niveau des salaires des députés eux-mêmes. Mais j'ai pas observé, notre côté à l'organisation, on n'a pas récolté ces données-là comme telles. Mais vous, avez observé ça?
En fait, c'est c'est la hausse du salaire minimum fédéral. Là. Fait que toutes les entreprises qui sont touchées par le fédéral, c'est comme nous, exemple, s'il y avait, mettons un employé ici qui gagnait le salaire minimum, on serait obligé de donner le salaire minimum fédéral et non le salaire minimum provincial. Okay. Parce que c'est une entreprise qui est régie par le fédéral.
Ah, OK. C'est ça. Ça va avoir beaucoup plus d'impact, mettons, pour ces entreprises-là. Mais que l'augmentation du salaire ait lieu, ça, c'est généralement, c'est indexé. J'ai pas vraiment suivi les nouvelles au niveau fédéral,
savoir
le mécanisme là, qui l'indexait. Là. M'illuminer là-dessus.
Il était à 16,65. Là, maintenant, on le monte à 17,30 dès le 1er avril. Donc, on parle d'une hausse de 65 cents de l'heure. Puis ça touche à peu près 30 000 travailleurs dans les entreprises privées qui sont de compétences fédérales. Le transport routier, les entreprises de semences et de grains, les usines d'aliments pour animaux ou encore les services de messagerie fédérale, tous les gens qui étaient au salaire minimum vont être augmentés.
Bon. Effectivement, c'est le genre d'augmentation qui est effective généralement le 1er avril. La raison du pourquoi, c'est parce que c'est le début d'une nouvelle année fiscale qui entre en vigueur, donc les salaires sont ajustés de la même manière que c'est le cas pour les députés ou pour les taxes et autres. Mais c'est sûr que ça va jouer quand même un peu sur les coûts pour la nécessité pour la fonction publique. On parle quand même d'une augmentation de salaire pour 30 000 personnes. Fait que c'est peut-être pas là qu'on va voir une grande modification. Parce qu'il faut rappeler que si on parle des entreprises qui sont privées, donc qui vont être obligées de, augmenter leurs coûts pour pouvoir compenser et être en mesure de rémunérer adéquatement leurs employés. Mais dans plusieurs entreprises, il faut aussi rappeler qu'ils ont déjà ajusté leur salaire à la hausse. Donc, automatiquement, dès que le salaire minimum n'est plus perçu par ne serait-ce qu'un seul employé, ça n'a pas vraiment d'impact, à moins qu'il soit toujours en train d'embaucher de nouveaux employés. Donc, ça va toujours avoir un impact différent d'une entreprise à une autre. C'est sûr que des organisations comme la STI sont un peu plus calées là-dessus parce qu'eux autres, leurs membres de leur fédération, c'est essentiellement des PME. Puis justement, parlant de PME, le 1er avril, il n'y a pas eu juste l'augmentation des taxes au fédéral. Il y a aussi des tarifs qui ont augmenté au Québec, en fait. Pour le rappeler, depuis le 1er avril à minuit, les tarifs d'Hydro-Québec ont augmenté. Et ce qui vaut la peine d'être mentionné, c'est que si les tarifs des particuliers comme vous et moi ont payé 3 % de plus cette année et que les grandes entreprises, donc à gros volume de production, voient leurs tarifs augmenter de 3,3 %, les PME du Québec, eux, voient leurs tarifs augmenter de 5,1 % cette année. Donc, encore une fois, augmentation de salaire ou pas, on prend encore à la gorge des entreprises du Québec et ça va jouer inévitablement sur leur charge d'opération et sur les prix qu'ils vont nous refiler au final. On parle d'une hausse de pas loin de 263 millions de dollars de plus. Ça, c'est tout ce que ça représente, la hausse de 5,1 % des tarifs d'électricité pour les PME. Malheureusement, le gouvernement refuse toujours de plafonner leurs tarifs. On donne encore des tarifs préférentiels aux grandes entreprises. On plafonne pour les particuliers jusqu'en 2025. Et encore là, on espère que la Régie de l'énergie ne va pas faire une révision trop brusque rendue là, parce que c'est quand même l'année prochaine.
Ouais.
Mais sinon, pour le reste, les PME sont celles qui payent le haut fardeau encore une fois cette année au Québec.
Ils touchent-tu à notre alcool?
Mais l'alcool, oui. Malheureusement, on paye plus cher sur l'alcool. Ne serait-ce que 2 % Mais c'est le fun que t'en parles parce que autant que c'est dommage de se dire qu'on paye plus cher, ça aurait pu être pire. Faut rappeler qu'il y a une taxe d'assises fédérale qui s'applique sur l'alcool, sur tous les alcools au Canada.
Ouais.
Il y a bien du monde qui ne le savent pas, mais le Canada, c'est quand même la deuxième place au monde où est-ce qu'on paye le plus de taxes sur l'alcool au monde. Il n'y a pas vraiment d'autre endroit qu'on taxe plus l'alcool à part le Japon, et c'est tout.
Ben, est-ce que c'est intelligent? Je pose la question parce que c'est presque essentiel pour bien des gens. C'est puis là, je veux pas aller dans l'alcoolémie, là, puis genre l'alcoolisme, là, mais je veux dire, est-ce que c'est intelligent? Moi, j'ai l'impression que oui.
Ouais.
En termes de gouvernement, est-ce que c'est intelligent de le faire autant? C'est pas ça le point.
Pour moi, l'alcool, c'est un bien de luxe, là. Tu sais, j'ai arrêté d'aller régulièrement à la SAC. Là, j'y vais peut-être une fois par semaine.
Mon Dieu, tu t'aides.
Ouais. Avant, j'y allais comme deux fois par semaine. Là, c'est une fois par semaine. Puis ça arrive souvent le samedi. Mais j'ai coupé là. Il y a énormément de gens qui ont coupé à la SAC. Je parlais avec un employé de la SAC qui disait, tu sais, les commandes sont plus ce qu'elles étaient, là. Les livraisons par camion, des fois, c'est 20 % de moins que l'année passée.
Quand même, c'est des gros chiffres.
Ça paraît.
Ouais, puis Ben, c'est ça. Moi, je vais me mettre en mode neutre là-dessus, parce que c'est sûr que vous m'entendrez jamais défendre l'augmentation d'une taxe ou la mise en place d'une taxe. C'est sûr que l'alcool, c'est un luxe, c'est pas quelque chose que tu es supposé consommer non plus, comme si c'était un bien de première nécessité. C'est sûr que d'un autre côté, si on parle d'alcoolisme, clairement qu'on préfère qu'il y ait une prise en charge du système de santé à ce niveau-là ou d'une quelconque institution qui peut le faire.
Oui.
Mais il reste que pour l'alcool, bon, on comprend qu'il y a des taxes, mais c'est pas juste sur le portefeuille de monsieur et madame tout le monde que ça va jouer au final ces taxes-là. Ça va aussi jouer beaucoup sur les tenanciers de bar et surtout sur les restaurateurs. C'est eux qui sont généralement les plus impactés par les hausses de taxes, parce que nous, au final, quand on regarde l'augmentation de la taxe sur l'alcool, ne serait-ce que de 2 % comme ça a lieu depuis ce 1er avril, ça fait varier le prix des canettes de bière ou des bouteilles de vin de quelques cents, voire d'une dizaine de cents au maximum. Donc, c'est sûr que c'est quelques dollars à la fin de l'année. On dit qu'on aurait voulu voir cet argent-là aller ailleurs que dans plus dans l'alcool qu'autre chose. Mais c'est pas nous que ça va impacter vraiment le plus, même si ça nous impacte. C'est surtout les restaurateurs, qu'eux autres, on parle quand même de milliers de dollars supplémentaires que ça représente pour eux. Et au final, ben, les restaurants sont pas juste des distributeurs d'alcool. Ils font d'autres opérations qui font en sorte que ça va leur nuire et ça va leur obliger, encore une fois, à devoir augmenter leur coût ailleurs. Parce qu'il faut rappeler une chose, les restaurants, eux autres, quand ils achètent de l'alcool, ils vont pas vendre de l'alcool ils vont pas acheter l'alcool après l'avoir vendu. Ils vont l'acheter avant de la vendre. Et donc, ils doivent augmenter leur coût d'opération et que la vente n'est pas au rendez-vous, ben, ça joue énormément sur ces entreprises-là. Puis, au final, la taxe était supposée augmenter de 4,7 %. Il y a eu tout un branle-bas de combat que nous, on a mené à la Fédération, mais que d'autres organisations conjointes ont également mené pour forcer la ministre des Finances à rétracter. Finalement, la hausse a été plutôt plafonnée à 2 %. Mais quand on regarde ce que ça représente, ne serait-ce que pour les contribuables ou le consommateur au Canada, ça représente environ 40 millions de dollars que le gouvernement va chercher à travers cette taxe-là. Donc, c'est moins que prévu, donc une petite victoire, mais ça a quand même eu lieu en plein 1er avril, donc hier, en même temps que les autres augmentations de taxes.
Oui, puis tu sais, la hausse des tarifs d'Hydro-Québec, bon, on nous dit, soyez chanceux, on vous donne juste un 3 %, mais pour ce qui est des prochaines années, surtout lorsque la CAQ va partir aux prochaines élections, là, moi, j'ai l'impression que PSPP va remodifier cette fameuse loi là, qui leur permettait de limiter les augmentations pour ce qui est d'Hydro-Québec, puis qu'on va payer la totale dans les prochaines années.
Mais là, il est occupé là, avec le chandail en anglais du côté de Victoriaville.
Oui, c'est ça. Oui, il se concentre sur les vraies affaires. Mais Hydro-Québec, je sais pas si tu as vu l'article, je pense que c'était dans le journal de Québécois ce matin ou hier soir. Hydro-Québec,
oui.
En 4 ans, plus de 20 % d'employés en 4 ans. 20 %.
Ben, c'est ça.
Super de bons emplois, bien rémunérés, avec des pensions dorées, là. C'est 20 % de plus, alors que ce que David Décoteau disait dans l'article, c'est que le service à la clientèle se dégrade. Fait que tu as 20 % de plus d'employés, puis tu as le service à la clientèle qui se dégrade constamment.
Il y a un auditeur qui nous écrivait, pendant qu'on en jasait un peu plus tôt, qu'il y a une vague de retraite qui arrive d'ici 5 ans, puis saurait avoir ce 20 % d'augmentation-là, qui serait pas à négliger. Mais on ne l'avait pas dans l'article, là. Là, c'est un auditeur qui nous commande.
Ben, c'est ça. Ben, dans tout l'ensemble de la fonction publique, c'est sûr qu'on est supposé avoir des départs à la retraite assez massifs au courant des prochaines années. C'est là-dessus que le gouvernement devrait d'ailleurs compter pour être en mesure de réduire la taille de la bureaucratie au Québec. C'est là-dessus qu'il disait vouloir se baser initialement quand Legault voulait réduire de 5 000 le nombre de fonctionnaires en 2018. Finalement, tout ça n'aura jamais eu lieu, mais c'est la stratégie la plus humaine pour s'assurer de pouvoir faire un ménage dans la fonction publique sans avoir à faire des mises à pied massives. Mais quand on regarde, par exemple, Hydro-Québec, effectivement, d'une part, on observe l'état des infrastructures, l'état des services, le fait qu'on a de plus en plus de pannes. On a un record au Québec du nombre de personnes qui attendent depuis plus d'un an pour être branchées. On a 500 personnes au Québec qui attendent depuis plus de 2 ans pour être branchés. Je veux dire, d'un, c'est un record. De deux, tu te dis, ben, comment ces personnes-là font pour vivre en n'ayant même pas accès à l'électricité, qu'on appelle quand même une denrée de base, ne serait-ce que pour n'importe quel Québécois. Là, comme tel, t'as pas d'électricité, je veux dire, c'est impossible de vivre, point final, ou du moins, vous vivez très reculé de la société. Mais il n'en reste qu'on est passé effectivement de 17 000 employés à presque 20 000 en dedans de 4 ans. Aucune amélioration, c'est une augmentation de pas loin de 17 % des employés permanents, puis 3 % pour les employés non permanents. Puis tu te dis, mais tant qu'à engager des effectifs supplémentaires, on peut-tu avoir un gain d'efficacité, on peut-tu avoir une augmentation de la qualité, est-ce qu'on peut avoir moins de temps, est-ce qu'on peut voir ça aller? Mais finalement, on le voit pas, parce que quand on regarde, par exemple, la productivité de Hydro-Québec au courant des dernières années. Elle n'est pas au courant des dernières années. Les dernières décennies, elle est en chute libre. La productivité à tous les niveaux, là, qu'on appelle multifactoriel, je ne vais pas rentrer trop dans le jargon économique aujourd'hui, mais essentiellement, Hydro-Québec, malgré le fait qu'ils produisent de l'électricité en grande quantité, qu'ils ont quand même plusieurs infrastructures qui se sont conçues au courant des dernières années, c'est des pertes, c'est des déficits qui s'accumulent et c'est une perte d'efficience au niveau de ce que les employés donnent comme rendement. Tristement, on engage plus, mais on livre moins. Et on l'a vu, en fait, dans le dernier budget, à quel point Hydro-Québec, malheureusement, quand ça a des pertes, ça joue effectivement beaucoup sur les revenus du gouvernement. Parce que une des raisons pour laquelle le déficit était plus gros que prévu, c'est parce qu'Hydro-Québec a affiché une perte d'environ 1 milliard de dollars dû à ses surplus. Donc, c'est ce genre de choses qui plombent l'économie québécoise. Puis là, quand on se dit que dans les prochaines années, on va voir les tarifs augmenter, on risque peut-être même de perdre des surplus qui nous assuraient une certaine sécurité énergétique, mais Hydro-Québec ne fait rien pour faire le ménage dans ses infrastructures, mieux les entretenir, puis surtout dans ses effectifs, puis engager, oui, c'est bien beau d'avoir plus de gens pour travailler sur le terrain, mais tu n'as pas une amélioration de la qualité du service à la clientèle, puis tu as des gens qui n'ont pas assez d'électricité, il va falloir que tu expliques ce que ces gens-là font sur le terrain au final. Donc, c'est un grand problème. C'est une nouvelle découverte qu'on apprend sur Hydro-Québec. On espère qu'il va y avoir un rappel, mais une chose est sûre, dans le dernier budget, Legault l'a dit lui-même, Hydro-Québec doit faire sa part pour réduire ses dépenses et remettre de l'argent dans les coffres du gouvernement.
Mais Nicolas Gagnon, pourquoi on en est rendu là? Je me souviens que lorsque la CAQ était dans l'opposition, il promettait qu'on allait réduire la taille de l'État, alors qu'actuellement, pendant leur mandat, on se rend compte qu'ils ont engraissé là, la taille de l'État tellement que l'État est rendu pratiquement obèse. Y a-tu des... On va-tu s'en sortir à un moment donné? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est correct que l'État soit un employeur, mais d'augmenter le nombre d'employés sans nécessairement augmenter la productivité, ça, on ne voudra jamais ça. La CAQ va faire quoi? En fait, c'est-tu le PQ qui va faire le ménage? Je pense pas. Ils ne sont pas reconnus comme étant des gens qui, au niveau de l'économie, sont des experts.
Bien, en fait, il reste un joker à jouer pour la CAQ s'il joue bien. Tu mentionnais effectivement qu'il se présentait en 2018 en disant vouloir réduire la taille de l'État parce qu'ils sont aussi présentés de même en 2012 qu'en 2014. En 2012, Legault disait vouloir réduire de 7 000 le nombre de fonctionnaires. Puis, ben, ça n'a pas trop fonctionné. C'est le PQ qui est rentré au pouvoir. En 2014, il est revenu et il a dit on va réduire de 20 000 le nombre de fonctionnaires. Ça n'a pas fonctionné parce que c'est les Québécois ont préféré Couillard à la place qui a réellement réduit de 3 000 fonctionnaires de la fonction publique. Mais il en a engagé presque autant juste avant de quitter le pouvoir en 2018. Puis, Legault, lui, il disait de réduire de 5 000. Il a réduit de 5 000 entre les lignes, mais la réalité, c'est qu'il en a engagé pas loin de 100 000 en retour. En 2018, quand Legault est arrivé au pouvoir, tu avais 498 000 fonctionnaires dans toute la fonction publique québécoise combinée. Là, tu en as 595 000, puis ça continue d'augmenter. On va en ajouter 8 000 de plus d'ici l'année prochaine. Donc, là, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire la bureaucratie quand on sait que ça représente la moitié des dépenses gouvernementales et qu'on n'a pas d'amélioration de service non plus? Où est-ce qu'on coupe? Et la question, ça, c'est une question qui tue, parce que tout le monde va toujours dire, bon, on coupe pas les services de première ligne, on coupe pas les enseignantes, on coupe pas les infirmières, donc on coupe où? Et la réponse, c'est directement dans les ministères. Il faut que le gouvernement de la CAQ fasse exactement ce qu'ils ont dit dans le dernier budget, qu'il fasse un comité de révision des dépenses gouvernementales, ce qui a été fait par Paul Martin en 2003, puis par Harper en 2009, au fédéral, et qu'il repasse tous les programmes de tous les ministères un à un. Parce que la réalité, c'est que vous ne pourrez jamais trouver un site web au Québec qui vous dit tous les programmes qui existent. La réalité, c'est que chaque ministère a une panoplie de programmes, dont plusieurs sont effectivement liés à des administrateurs, liés à beaucoup de fonctionnaires, dont on n'a pas gardé les sujets au courant des dernières années. On ne garde pas le suivi sur leur portefeuille, les dépenses, à savoir s'il y a une croissance des dépenses dans ce programme-là ou si les gens ont arrêté d'utiliser, mais on paye carrément des gens à rien faire. Et ça, je ne serais pas surpris que ce soit le cas dans plusieurs cas. Et de dire vraiment, est-ce que certains ministères, on devrait vraiment les garder? Est-ce qu'on a besoin vraiment du ministère du tourisme? Ça, c'est une question qui vaut la peine de se poser au final. Si on est capable de couper ne serait-ce qu'un ministère à la fois, ne serait-ce que dans le gras ou dans les différents programmes, ou est-ce que là, on peut vraiment couper le nombre de postes? Là, on va arriver à quoi d'intéressant en bout de ligne. Mais je dirais que ça prend un petit peu de courage pour faire un tel ménage. Mais en même temps, comme je le disais tantôt, si le gouvernement veut faire les choses humainement, il peut carrément se baser sur des départs massifs à la retraite. Donc, à chaque fois que les gens partent à la retraite, tu fermes le poste en arrière. Tu fais des départs par attrition. Et c'est la meilleure manière de t'assurer d'avoir une certaine forme d'appui de la population en disant, OK, il fait le ménage, mais il n'est pas en train de mettre des gens à la porte. Il s'assure de fermer la porte sur des postes une fois que les gens sont partis à la retraite. Donc, ça serait la meilleure solution. On va espérer qu'il écoute présentement.
Ouais.
Sinon, j'espère que vous avez prié Jésus en fin de semaine, parce que c'est peut-être l'autre solution.
Mais non, Poliev l'a fait pour nous.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais Nick, je comprends le modus operandi là, dans la façon de penser des gens. Ah, je veux pas que mon gouvernement soit cruel. S'il y a un départ à la retraite, on le remplace pas. Comme ça, c'est humain. Mais si tous les gens qui disent ça étaient propriétaires de PME, puis que leur PME n'arrive pas à fin du mois, ces gens-là seraient les premiers à dire, je suis désolé, employé, j'ai plus les moyens de te payer, faut que tu quittes. C'est fou à quel point on a comme deux façons de voir les choses. Hein. Quand ça touche directement notre poche, quand on voit directement notre 20$, notre 40$ sortir cash, on dit, crime, ça coûte cher. Mais le gouvernement, on s'attend à ce que lui soit humain, comme si cet argent-là n'existait pas. C'était pas de la vraie argent.
Exactement. Puis, t'as tout à fait raison. Au final, quand c'est une décision qui revient au contribuable, on est toujours plus drastique, on est plus rapide à prendre une décision, puis
surtout
à prendre la décision qui s'impose, quitte à ce que certains soient moins contents. Mais je t'avouerais que le fameux discours qui est perpétué aussi dans la fonction publique, c'est cette question où est-ce qu'on veut absolument protéger le moindre poste bec et ongles, ça vient pas des gens comme moi, ça vient beaucoup plus des syndicats qui essentiellement, ils veulent protéger leurs travailleurs parce que c'est des travailleurs qui cotisent pour les syndicats comme tels.
Oui.
Mais d'un autre côté, ça démontre qu'il y a effectivement ce qu'on appelle des gatekeepers dans la fonction publique, des instances, des institutions, des syndicats qui malheureusement se portent à la défense d'un modèle qui clairement est de moins en moins gagnant pour les Québécois. Puis à cause de ça, on sera jamais capable de prendre les décisions qui s'imposent. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait un gouvernement qui n'ait pas peur des syndicats, justement. Sauf qu'on a vu dans les derniers mois que Legault n'avait pas de problème à se coucher devant les syndicats, donc c'est là qu'on peut perdre un peu espoir. Mais comme je dis, il y a quand même un exercice qui est supposé être lancé ce printemps. C'est annoncé, ça a été dit par la CAQ, puis ils sont supposés nous livrer dans les prochains mois, espérons-le, le fameux plan pour le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, tout ça doit être arrimé ensemble pour qu'au final, on ait une forme d'assainissement de la fonction publique, mais encore une fois, il faut un minimum de volonté politique et de courage. Et ça, j'ai l'impression qu'on en demande beaucoup. Mais on verra en temps et lieu.
Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, on invite les auditeurs à aller directement sur votre site web contribuable.ca.
Exactement, ça fait plaisir.
Contribuable.ca. Merci Nick.
Bonne journée à tous.
Salut, bye-bye. L'excellent Nicolas Gagnon. Fait que là, c'est-tu baleine ou baleine?
Baleine.
C'est baleine.
C'est baleine.
C'est pas baleine.
Non. C'est haleine ou haleine?
Haleine.
Haleine. Okay. Toi, tu dis poteau, Pascal?
C'est un poteau. C'est pas un poteau.
Poteau.
Moi, je dis poteau.
Toi, c'est poteau.
Moi, c'est poteau.
Mais toi, tu viens du nord.
Ouais, j'ai du nord. Je viens de loin, moi.
Mais tu pognes ton poteau.
C'est quoi un cotteur, hein?
C'est un trottoir.
Voyons. Il y a le trottoir, puis le petit remblai à côté bande, du gazon, ouais. En gazon, là. Ça,
c'est pas un froc.
Une froc.
Un manteau.
Un manteau?
Ouais.
On dit une froc, c'est une manteau, Pascal?
Mais c'est une froc. Quand ils disent froc, c'est une froc.
C'est une froc.
C'est une froc.
Une.
Ou un froc.
88-971-102, un froc ou une froc?
Une soute.
Si je te dis d'où c'est que t'as reçu?
Ah, j'adore celle-là. T'arrives d'où?
D'où c'est que t'as reçu?
Hey, mon ami de Montréal, on s'en va au lac, une de mes meilleures amies, ses parents ont une ferme laitière là-bas.
Ouais.
Son père parle littéralement comme s'il y a une patate chaude dans la bouche, mais on l'adore. C'est genre la personne la plus spectaculaire et fine du monde.
Il est usé, il n'est pas usé, il zit.
Clairement.
Ça, c'était jaloux, ça. C'est...
Il y a ceux qui t'ont reçu, puis on ne comprenait pas trop, puis nous, on le sait, tu sais que c'est ça. Mon ami de Montréal, elle n'a aucune idée, puis elle dit « Qu'est-ce qui fait de la soudure? » On braillait de rire.
Wow!
Wow! Hey, on a un méga concours à la station. C'est le concours Rockin' Ball. Ça commence aujourd'hui, les amis. Donc, ouais. C'est un show de Blink-182 avec une game des Giants contre les Blue Jays. On vous envoie à San Francisco 2 jours.
Exactement. Donc, la semaine passée, on a pris le temps de vous annoncer le concours, mais officiellement, il commence aujourd'hui. Tu l'as bien dit, Yannick? 2 billets pour aller voir la tournée réunion de Blink-182. 2 billets pour aller voir le match des Blue Jays face aux Giants de San Francisco. Ça se passe en juillet prochain. On vous envoie en Californie. Puis on inclut le vol, l'hébergement et l'argent de poche dans tout ça. Pour participer, vous écoutez tout le temps Boulevard 102.1. Puis quand vous entendez une chanson de Blink-182, vous allez directement sur notre site web et vous notez à quelle heure vous l'avez entendu. Puis vous allez être finalement peut-être finaliste. Puis on est après-midi, Gravel dans le retour, on annonce le tout premier finaliste de notre publication Facebook qu'on avait fait en fin de semaine, alors qu'on pouvait être le premier finaliste du concours. Donc, vous avez jusqu'à 13h aujourd'hui pour commenter. C'est déjà fait, donc on est passé l'heure limite. Donc, bonne chance à vous tous. Ça va durer quelques semaines. Donc, soyez à l'écoute. Blink-182, vous notez l'heure quand vous entendez ça, puis vous courez la chance d'être finaliste.
Merci beaucoup, mon ami. Vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. À tous, un excellent mardi, déjà, début de semaine. Ouais, ça passe vite, cette semaine-là. Green Day, American Idiot, right now. Don't wanna be-